Bonjour, Assemblée des dieux. Nous allons nous incliner dans la prière. Éternel notre Dieu, merci pour ces cultes merveilleux. C'est toi qui le rends merveilleux pour encore y retirer ta gloire, toi seul, Seigneur. Ceci n'est pas l'œuvre d'un homme ni la pensée d'un homme, mais c'est toi qui as initié et pensé le culte. Et tu as donné des instructions pour avoir un culte qui t'honore. C'est pourquoi nous disons, Jésus, viens au milieu de nous cet après-midi. Retirer tout l'honneur attaché à l'organisation de ce culte. Que l'humain disparaisse, que les autorités établies disparaissent, jusqu'à ce que ton nom seul soit reconnu comme le nom élevé. Alléluia. Jésus, je t'élève sur nos propres incompréhensions, sur nos forteresses qui nous empêchent parfois de saisir ta parole. Seigneur, sur nos coutumes dans lesquelles nous nous sommes longtemps habitués et que nous n'avons pas le courage de nous en défaire pour avancer avec toi. Que le Saint-Esprit soit derrière ce message, pour souffler même ce que je ne dis pas à quiconque m'entendra cet après-midi. Jésus, que tu expliques mieux ces choses par rapport au contexte de la vie de chacun ici, parce que c'est toi qui connais pourquoi tel est présent en ces moments. Et je crois que ce message ne sera pas à côté de la réalité de quelqu'un si Saint-Esprit, tu es au-dedans de chacun pour contextualiser le message de cet après-midi. Je te prie de glorifier le Christ à la gloire du Père Saint-Esprit, pour que l'opération de la Sainte Trinité soit complète en ces lieux et que nous ne ratons rien de ce qui est attaché à la présence de ta Sainte Trinité en ces lieux. Jésus, nous t'honorons, nous allons t'honorer aussi par notre silence le moment de suivre ces cultes. Nous allons t'honorer par notre attitude de réceptivité et nous allons t'honorer par notre obéissance car la parole déclare que nous sommes heureux, nous qui entendons ces choses pourvu que nous les pratiquions. Qu'il nous soit donné donc cette grâce d'écouter et de réaliser ce que ta parole va nous recommander ces avant-midi. Que l'homme ou que la femme qui se tient ici puisse disparaître et que seule ta parole puisse rester comme souvenir pour tous ceux-là qui vont écouter ce message. Jésus, agrée-nous, nous te le demandons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alléluia. Je bénis le Seigneur qui nous donne la grâce d'être là avec vous cet après-midi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Madame Judith Valero-Gracias. Je suis fille de la maison et enfant de Dieu par sa grâce. Amen. Je remercie le Seigneur aussi pour la grâce qu'il me donne de pouvoir me mettre au devant de vous, pas parce que vraiment j'ai connu, mais parce qu'il a choisi comme il veut ses canaux pour transmettre sa pensée sur la parole aujourd'hui. Et je les célèbre davantage parce qu'aujourd'hui, je suis en train de fêter une année de mon mariage. Je suis mariée à Maître Claudie et c'était une année de bonheur, de joie, de fidélité aussi. Et Dieu nous a bénis avec un beau garçon et un tout petit bébé, et je remercie le Seigneur parce que ses bontés ne nous ont pas manqué durant tout ce temps. On ne va pas s'attarder sur ça, mais nous allons directement entamer notre thème d'aujourd'hui. Et j'espère que tu es prêt à recevoir ce que le Seigneur t'a préparé aujourd'hui, parce que tu n'as pas repassé tes habits, mis en place tes chaussures juste pour la photo d'après culte. J'espère que tu vas être conséquent de toutes ces préparations, de ces transports, pour pouvoir écouter ces messages et qu'ils puissent t'aider par la grâce de Dieu. Nous allons avoir notre première lecture, alors nous allons beaucoup lire. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 à 24. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23 à 24. La Bible déclare que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En fait, il nous a été donné un thème ce dimanche que j'ai reformulé et c'est comme cela que je vais l'annoncer. Le thème est intitulé « La sanctification de l'âme et de l'esprit comme deux alliés pour la marche dans les plans des dieux ». La sanctification de l'âme et de l'esprit comme deux alliés pour la marche dans les plans des dieux. Alors, le verset que nous venons de lire est en train déjà de nous introduire dans ces thèmes. Lorsqu'il est en train de déclarer que le Dieu de paix puisse nous sanctifier tout entier, tout notre être. Et notre être, on les définit comme notre âme, notre corps et notre esprit. Donc nous allons nous adonner à la définition de ces quelques concepts pour comprendre vraiment de quoi il s'agit. Et nous allons définir tous les concepts clés de ces messages, notamment c'est quoi le corps, c'est quoi l'âme, c'est quoi l'esprit, c'est quoi le plan des dieux, qu'on traduit plus souvent comme la destinée. C'est quoi le plan des dieux? Et aussi savoir c'est quoi même la sanctification, parce que c'est ça l'esprit de ces textes. Alors nous allons parler comme d'abord du corps. Le corps, en fait, c'est ton aspect extérieur, c'est ce que nous pouvons voir. C'est l'assemblage de tes yeux, de tes narines, de tes bras, de tes os aussi, c'est ce que nous ne pouvons pas voir. Tes os, il y a ton sang, il y a vraiment tout ce qui constitue ton corps, ta taille, ton poids. Tout cela fait partie de ton corps. On ne va pas trop s'attarder. Nous passons à l'âme. Et comme nous le savons déjà, parce que plusieurs fois j'ai été ici et on nous définissait ces concepts, l'âme, c'est le siège des sentiments. C'est là que tu ressens la joie, la douleur, la peine, la frustration, la peur. C'est là que tu ressens vraiment toutes les émotions, l'angoisse, que ce soit la dépression. Ça se passe aussi au niveau de l'âme. Et l'esprit, c'est le siège de la volonté, en fait. Quand tu veux faire quelque chose, donc la volonté ou la détermination ou une certaine inspiration, nous la tirons de l'esprit. C'est pourquoi dans la Bible, Jésus était en train de dire, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. C'est-à-dire, l'esprit a la volonté de faire ta volonté, de mourir. Là, c'était sur Gethsémané quand il était sur le point d'arriver à la crucifixion. Il dit que l'esprit est disposé, c'est-à-dire l'esprit a cette volonté vraiment d'aller jusqu'au bout de cette mission, mais je sens vraiment que la chair est faible. Donc, parce que l'esprit, c'est ça, le siège de la volonté. Et Paul est en train de dire aussi que « Pauvre pécheur, qui me délivrera ? Le bien que je veux faire n'est pas celui que je fais, et le mal que je ne veux pas faire, c'est celui que je fais. » C'est-à-dire, il est en train de montrer que dans son esprit, il a une volonté qu'il n'arrive pas à accomplir parce que la chair précède les actions de l'esprit. Amen. Donc, l'esprit, c'est le siège de la volonté. Alors, qu'est-ce que nous allons comprendre par rapport à la sanctification? Je ne vais pas la définir, mais je vais dire ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. La sanctification, d'abord je veux commencer par ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas une prière. Dans nos églises, parce qu'on est liturgique, on est CBK, on prend au sérieux l'étape de la sanctification. Et lorsqu'on arrive à cette étape, on vous dit, inclinez vos têtes, c'est la sanctification et on prie. Mais je vais dire à quelqu'un cet après-midi, la sanctification n'est pas une prière, mais la sanctification c'est un mode de vie. La sanctification c'est un certain style de vie que tu mets en place avec Dieu, parce qu'il s'agit vraiment de Dieu, c'est lui qui prend le règne, c'est lui qui guide, pour t'assurer que tu marches comme Dieu le veut. La sanctification, c'est à propos de se renier soi-même pour pouvoir marcher comme Dieu l'entend. Donc, ce n'est pas la prière qu'on fait à une certaine étape ou la soirée, je ne sais pas, lorsque tu ne veux pas dormir avec quelque chose et puis là, tu pries. Ce n'est pas ça, la sanctification. Mais la sanctification, c'est un style de vie. Ce que la sanctification n'est pas, c'est que, j'aime bien le dire, hein, la sanctification, ce n'est pas une douche dans laquelle on se baigne. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a remarqué aussi dans les milieux chrétiens que certains se disent, je peux pécher maintenant parce que je sais qu'à 18 heures, je vais prier Dieu. Ce n'est pas ça la sanctification. Ce n'est pas comme du jogging que tu fais en espérant qu'après tu vas entrer dans la douche, tu vas te laver, tout redeviendra propre. Ce n'est pas ça la sanctification, parce que déjà je venais d'expliquer que c'est un style de vie. Donc ce n'est pas un style de vie que tu peux briser à un certain moment et les récupérer à un autre moment. Mais la sanctification, c'est un style de vie sur lequel nous veillons. Et ce n'est pas aussi une douche dans laquelle tu peux te dire « je pêche, je viens, je me sanctifie, je pêche, je viens, je me sanctifie ». Alors, qu'est-ce que le plan des dieux? Le plan de Dieu, on peut le traduire par la destinée, mais ce n'est pas à dire que ça se fait comprendre quand je l'ai dit soudain. Et la destinée, ce n'est pas un concept dogmatique au sein de la CBK, c'est un concept qui est en train de nous venir du courant, peut-être des églises pentecôtistes et de réveil, mais ça a sa définition biblique. Et la destinée, on va ici la prendre comme un avenir, mais pas ton avenir dans une année, pas ton avenir dans des ans. C'est ton avenir dans sa finalité. Comment Dieu voit ta vie? Comment Dieu voit que tu finiras un jour dans ta vie? Et là, certains finiront président, d'autres finiront de grands serviteurs, d'autres finiront de femmes au foyer impactantes, d'autres finiront à l'éducation des enfants. En tout cas, ce n'est pas dans une année où tu seras secrétaire dans une publiforme et puis après tu passes à autre chose et puis après non. Mais la destinée, c'est cette finalité qui constitue même l'appel que Dieu t'a donné pour t'amener quelque part, pour faire de ta vie une empreinte sur la terre. Amen. Hein? Alors, par rapport à la destinée, je vais me permettre de lire avec vous dans les livres de Jérémie 29, 11. C'est un verset que nous connaissons très bien. Nous allons lire dans les livres de Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. La parole de Dieu déclare: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est ce que je venais de définir. La destinée comme un avenir, mais un avenir, pas dans une année, pas dans deux ans, mais pour tout le temps de la fin de ta vie. Et notre destinée finale en tant que chrétien, c'est les ciels, parce que pour nous, ça ne s'arrête pas avec cette vie dans la chair, mais ça va jusque dans l'au-delà. Donc, sachant, étant ici, si quelqu'un ne connaît pas sa destinée, d'abord, vis en sachant que ta destinée en tant que chrétien, c'est les ciels. Si tu crois en Dieu, si tu as ta foi en Dieu, d'abord tu as une destinée, c'est les ciels. Mais celle que nous recherchons maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu entend de moi ici sur terre avant que je ne puisse rentrer vers lui dans la destinée ou la félicité éternelle. Donc dans le chapitre 11 de Jérémie, lorsqu'il dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous afin... » Projet de paix, il est défini déjà. Déjà, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais il y a une chose qui a retenu mon attention dans ce verset, c'est que Dieu dit, il y a des projets que j'ai formés, je les ai déjà formés, j'ai déjà des plans, j'ai déjà conçu ces projets, mais je ne les ai pas formés pour vous. La Bible ne dit pas, j'ai formé pour vous ce projet, mais il dit, je l'ai formé sur vous. Et quand on dit sûr, c'est-à-dire si j'ai dit que ma Bible est sûre, c'est je ne sais pas comment on appelle en bon français, ma Bible est ici, c'est-à-dire j'ai mis ma Bible sur ça. Alors, quand Dieu dit je formais sur vous, c'est-à-dire tu es le fondement même de ces projets-là et de cet avenir, parce que c'est sur toi qu'il a fondé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça dépend des décisions que tu prends au quotidien. C'est celles qui te permettront d'arriver soit vers cette destinée, soit de la rater. C'est-à-dire que tu peux rater une destinée, pas parce que Dieu est infidèle, pas parce que Dieu a oublié sa promesse, pas parce qu'un oncle avait dit des choses mauvaises sur toi, mais parce que les décisions que tu as prises au quotidien t'ont écarté, égaré de ce que Dieu, lui, il avait déjà prévu. Parce que tout ce qu'il a prévu, il les dépose sur toi pour que tu marches de façon consciencieuse. Alors, je sais que chacun ici sait... Et chacun peut chanter avec moi si t'as baki kamani livio. Tu sais que ta situation actuelle n'est pas vraiment la situation finale parce que tu as de grandes aspirations dans la vie. Mais je vais te poser la question, quelle décision tu prends au quotidien pour pouvoir arriver à cette destinée? Alléluia. Alors nous allons lire directement dans les livres de Job pour pouvoir encore expliquer cette question de la destinée. Et après je serai en train de survoler d'autres questions. Mais là je suis en train de prendre le verset le plus important. Nous allons lire dans les livres de Job, le chapitre 1er, versets 1 à 5, la Bible déclare « Il y avait dans les pays d'Uth un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, craignait Dieu et s'est détourné du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. » Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, Et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait, je veux qu'on retienne là-bas, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il s'élevait de bon matin et il offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être que mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Là, je vais vous détailler juste qui était Job, mais ce qui va retenir notre attention ici, c'est de dire que Job avait coutume d'appeler ses fils et de les sanctifier. Mais il ne s'arrêtait pas là, il allait jusqu'à faire de sacrifices, des holocaustes. Et dans les temps anciens, les holocaustes se donnaient sur des autels. C'est-à-dire Job était en train de construire des autels où il était en train de transporter ses fils pour les sanctifier. Je prie qu'à travers toi, que ta postérité soit sanctifiée. Et je te demande une chose. Lorsque tu es en train maintenant de faire la prière de sanctification, je dis la prière de sanctification, pas la sanctification, parce que la prière de sanctification n'est pas la sanctification en soi, mais c'est aussi un procédé qui nous permettra d'atteindre la vie des sanctifications. Amen. Lorsque tu es en train de faire une prière de sanctification, je préfère que tu ailles attaquer les diables même là où tu penses qu'il n'est pas. Je préfère que tu sois plus prudent pour le frapper là où il n'est pas que d'être trop raisonnable et de les laisser là où il serait. Amen. Je préfère que tu sois plus prudent pour aller attaquer les diables là où il n'est pas que d'être trop raisonnable et de les laisser là où il serait. Job, il appelait ses fils. Je suis sûre qu'il les demandait, est-ce que quelque chose s'est passé de travers? Et peut-être ses fils pouvaient dire non, peut-être Banafichiana. Mais Job ne s'arrêtait pas là. Il est sanctifié quand même. Même s'ils ne lui ont pas dit toute la vérité sur comment ils ont fêté, s'ils ont bu de l'alcool, s'ils ont dit de n'importe quoi. Mais il ne s'arrêtait pas sur la version de ses enfants. Il allait jusqu'à se dire, bon, je vous sanctifie quand même. Et puis il ne s'arrête pas. Il va dormir. Mais demain matin encore, il se réveille. Il fait une offrande et il sacrifie des holocaustes sur cet autel pour la sanctification de ses fils. Je dis, hein, peut-être tu vois, tu remarques qu'il y a des péchés qui reviennent souvent dans ta famille. Peut-être c'est la fornication, peut-être c'est des divorces qui reviennent parce que, je ne sais pas, maman était infidèle et puis le divorce est arrivé dans la famille. Tu connais les systèmes de ta famille, mais je dis que tu peux aujourd'hui commencer à élever des autels sur lesquels ta famille sera sanctifiée. Amen. Et la Bible est en train de le dire si bien, Job avait la coutume d'agir ainsi. Je prie que nos coutumes qui sont contraires à la volonté de Dieu, que toi qui es révélé et qui comprends aujourd'hui, que tu commences à les remplacer par des coutumes qui honorent Dieu. Peut-être dans ta coutume, je ne sais pas moi, on dote d'une certaine manière, on a même l'impression que ce sont des gris-gris. Mais je prie que quand ça sera ton tour, que toi tu imposes la coutume et la culture de Dieu dans ta manière de faire. Les choses. Et il y a aussi Jérémie qui était en train de dire dans le Jérémie chapitre 1er, il dit que je suis enfant, je suis né, j'ai été conçu dans les péchés et c'est dans les péchés que ma mère m'a conçu. Et là, il est en train de faire une prière de sanctification où il est en train de montrer à Dieu sa situation. Et je vais te dire, en matière de sanctification, il faut même aller dans la transcendance. Parce que ici, tu vas penser que je suis encore jeune, c'est quand je serai parent que je vais commencer à faire comme Job. Mais je te dis, si tu sens que tu es encore jeune, commence à faire alors comme Jérémie. Parce que quand il est en train de confesser sa situation, c'est-à-dire il est en train de couper les liens de transmission du péché entre sa mère et lui et entre lui et sa descendance. Donc quand tu fais une prière de sanctification, ne reste pas dans les niveaux où Nadjoa Keniliba, où Nadjoa le péché d'omission et de commission, et ce que je ne connais, ce que je ne connais pas. Je veux que tu rentres même jusqu'à ton grand-père que tu n'as pas connu, et que tu commences à dire, selon l'histoire que j'ai entendue de lui, lui qui avait beaucoup de femmes et qui est mort dans le péché avec beaucoup d'irresponsabilité face à ses enfants, moi je ne serai pas cela, ma descendance ne sera pas cela, mais mes frères et sœurs ne seront pas cela. Et j'avais à cœur de donner un message à quelqu'un qui voit que ses frères et sœurs sont en train de marcher dans une vie un peu contraire à la volonté de Dieu, mais toi, tu es en train de marcher dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que toi tu sais faire de bons choix plus que eux, mais c'est parce que Dieu veut faire de toi ces pionniers par lesquels ta famille va être sortie d'une certaine dimension pour la faire entrer dans une autre dimension. Alors je dis, au lieu de dormir, au lieu d'être égoïste dans tes prières, élève des autels où tu vas amener ton père, où tu vas amener ta mère, où tu vas amener tes frères et sœurs, où tu vas amener tes enfants que tu n'as pas encore connus pour te permettre de pouvoir vivre dans les repos lorsque tu auras été exaucé. Amen. Parce que ce que je sais en matière de prière, c'est que révoquer une situation qui est déjà là est plus difficile que de la prévenir. Amen. Si tu veux attendre de voir et de palper les conséquences du manque de la vie de sanctification autour de toi, il sera difficile pour toi de renverser la tendance si tu veux prier quand la situation est déjà là. Mais si tu t'es prémuni et que d'avance tu attaques la situation, tu sauras vivre cette vie de sanctification dans le repos total. Comme Dieu le dit, que ce sont de projets de paix et non de malheur qu'il a pour nous. Amen. Hein? Et il y a Paul aussi qui était en train de dire que chacun prenne soin à la manière dont il est en train de construire parce que le fondement a déjà été posé. Il y en a qui vont construire avec de l'or, il y en a qui vont construire avec de la chaume, il y en a qui vont construire, chacun va choisir le matériel. Comme je dis, Dieu a déjà jeté le pont, il a déjà mis le fondement de ce plan qui t'amène directement vers ta destinée. Mais c'est toi, en marchant avec Dieu, tu vas choisir comment vivre. Tu vas mettre tes principes de base, tes principes de vie. Si tu sais, par exemple, que dans ta vie, tu es acculé par l'impudicité, c'est toi maintenant qui vas commencer à poser tes limites avec les filles, avec les hommes, avec les textos, avec la nature de textos que tu entretiens, parce que tu veux te servir de ce pont que Dieu a déjà jeté pour mener une vie de sanctification. Amen, hein? Alors, je vais te parler du combat spirituel qui existe en termes de sanctification. C'est-à-dire, je vais te parler de la sanctification comme un combat spirituel à livrer. Et là, nous allons lire dans les livres de Galates, chapitre 5, le verset 16 et 17. La parole de Dieu déclare dans Galates, chapitre 5, verset 16 et 17, et je veux que tu sois attentif. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Je vais compléter ces versets par Romains chapitre 8. Nous allons lire du verset 12 jusqu'au verset 13. Où la Bible dit, « Ainsi donc, mes frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. » C'est-à-dire le livre de Galates 5, 16 à 17 est en train de nous montrer le combat en matière de sanctification qui existe. C'est-à-dire, comme je dis que l'esprit est le siège de la volonté, je sais que tout enfant de Dieu né de nouveau a cette volonté-là de plaire à Dieu. Mais il y a un combat qui sera livré entre ta chair et ton esprit pour ne pas te permettre de faire ce que ton esprit veut vraiment. Et ce que ton esprit veut vraiment, c'est de plaire à Dieu. Et lorsque tu auras accompli les désirs de la chair, tu seras un jeune qui vit dans la culpabilité constante. Parce que ce que tu veux n'est pas ce que tu fais. Et ce que tu ne veux pas faire, c'est ce que tu fais parce que, à cause de l'attrait de la chair. Amen. Alors, je vais te dire que tu ne dois pas prendre ta vie de sanctification à la légère parce que ce n'est pas le diable qui te livre un combat cette fois-ci, c'est ta propre chair. Ta chair est au-dedans de toi. C'est une conception spirituelle, donc de ta nature humaine qui t'attire vers les choses de ce monde ou les choses éphémères qui te procurent un plaisir éphémère qui est contraire à la volonté de Dieu. Amen. Et la Bible est en train de dire que la chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. C'est-à-dire, tu veux prier, la chair veut dormir, n'est-ce pas? Tu veux jeûner, ton ventre veut manger. Tu veux te garder pur sexuellement, mais la chair te pousse quand même dans la fornication. Donc, c'est toujours des opposés qu'on ne peut pas concilier. Amen, hein? Et la Bible est en train de dire que la chair en a des contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Pour que vous ne fassiez pas ce que la disposition de votre esprit, la disposition de votre cœur. Et je sais que ta disposition, c'est déjà de plaire à Dieu. Alors, lorsque la Bible est en train de nous dire, marcher selon l'esprit, c'est comme un secret, décider. Là encore, c'est ta décision. Parce que si je suis sollicité, je jeûne ou je mange, qui décide à la fin? C'est encore moi. C'est pourquoi je vous ai dit que le fondement que Dieu a posé, ça dépend de choix que nous prenons au quotidien. Et la Bible est en train de nous dire, mes amis, pour réussir la vie de la sanctification, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Qu'est-ce que tu choisis cet après-midi, bien-aimé? Parce que la Bible dit que c'est l'esprit et que Dieu est capable de produire en nous le vouloir et le faire. Mais d'abord, c'est toi qui dois décider sur quel camp tu te penches et lui, il va te donner les capacités nécessaires. Alors, si tu comprends aujourd'hui que la vie de sanctification à laquelle tu es appelé aujourd'hui va te pousser dans un combat, je vais te dire pourquoi c'est important d'accepter ce combat-là, de te livrer à ce combat-là. Donc, je vais te parler de pourquoi la sanctification dans ta vie. Pourquoi est-ce que tu dois vivre cette vie de sanctification? Déjà, je vais poser une question de savoir qui croit qu'il a une grande destinée, vraiment une grande. Donc, que ta situation présente n'est pas vraiment ce que la finalité de là où Dieu t'attend. Qui croit à cela? Il va juste faire comme ça. Déjà, on n'est pas nombreux, on n'est pas rassurés. Vraiment quelqu'un qui a une grande destinée, non? Même en mettant ta main, la hauteur de ta main là, que ça nous dise un peu sur ta destinée. Qui croit qu'il a une grande destinée? Moi, j'ai une grande destinée. Et merci aussi à toi. Alors, je pose une deuxième question. Qui compte sur Dieu pour que cette destinée se réalise? Ah, voilà. Je crois que nous sommes nombreux. C'est-à-dire, je vais traduire un peu ce que je viens de dire. Si tu comptes sur Dieu pour que ta destinée se réalise, c'est-à-dire, dans d'autres mots plus simples, que tu veux que Dieu réalise ta destinée, n'est-ce pas? Tu veux que Dieu réalise ta destinée. Mais comme je l'ai dit, il n'a pas prévu de plan pour toi. C'est-à-dire, ce n'est pas un colis que tu vas aller retirer, mais c'est quelque chose sur laquelle tu vas travailler en collaboration avec Dieu. Amen. Alors, c'est-à-dire, tu veux entrer dans un partenariat où Dieu réalise pour toi quelque chose, mais je n'ai jamais vu de partenariat sans contrepartie. Je n'ai jamais vu. C'est-à-dire, si toi, tu t'attends à ce que Dieu réalise ta grande destinée, Dieu aussi attend quelque chose de toi. Dans le livre toujours de Thessaloniciens, là où nous avons lu, si tu continues la lecture, la Bible est en train de dire ce que Dieu veut lui aussi dans ses partenariats où il doit réaliser ta grande destinée là que tu connais. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Là, je n'ajoute pas, c'est la Bible qui le dit comme ça. Et je me suis posé la question, pourquoi Dieu met à côté de la sanctification l'impudicité? Et l'Esprit me dira, tu seras juste dans les milieux chrétiens. Lance ça et qui veut entendre, entendra. Amen, hein? Donc, ce que Dieu veut dans ses partenariats, il a vraiment besoin de te donner cet avenir de paix et non de malheur, de t'assurer un avenir, de te donner de l'espérance malgré le moment par lequel tu es en train de passer. Peut-être tu es négligé, tu n'es pas prise en considération à ta juste valeur, mais Dieu te dit, dans ces moments-là, dans ces paysages-là, je viens te mettre de l'espérance. Parce que toi, quand tu auras la révélation de où tu vas, même si tu me négliges ici, je vais juste te regarder, je ne vais même pas répondre, je vais rester tranquille et je vais te regarder, je dis, je t'attends au tournant. Amen. Hein? Que l'honneur que tu es en train de manquer aujourd'hui, que la vie de sanctification que tu vas décider de commencer avec Dieu puisse t'amener vers ces choses auxquelles tu aspires. Amen. Alors Dieu est en train de dire, ce que je veux moi. Hein? Toi, tu veux que je réalise ta destinée, c'est bon. Tu veux que je coopère avec toi pour construire ce grand avenir, c'est bon, pour que tu sortes de ce monde. Et quand on parlera de ton nom, OK, il y a des Billy Graham, on parle de leur nom, même moi, je vois leurs images, c'est vraiment flou. Mais ce sont des gens, ils sont restés dans les annales. Il y a des grands entrepreneurs aussi qu'on entend jusqu'aujourd'hui qui sont restés dans les annales. Et parmi eux, je vais vous rassurer, il y a des bons chrétiens, n'est-ce pas? Alors, si tu veux arriver à ce grand avenir, Dieu dit aujourd'hui, moi aussi, ce que je veux. Toi, tu veux ta destinée. Moi, ce que je veux, c'est ta sanctification. C'est que tu puisses mettre en place une vie d'abstinence. Et moi, je veux dire, ce n'est pas seulement l'abstinence pour l'impudicité. Il y a des gens, leurs cœurs ont été séparés de Dieu à cause de ce à quoi ils livrent leur cœur au quotidien. À cause du plaisir quotidien et du plaisir normal, leur cœur a été écarté de Dieu. Dieu veut nous voir mettre en place un régime spécial pour nous permettre de nous approcher de lui et de mener une vie de sanctification, surtout une vie où nous sommes à l'écoute de ce qu'il attend de nous. Et une deuxième chose que la Bible est en train de dire dans ces partenariats que tu veux faire avec Dieu pour t'amener vers ta destinée, la Bible est en train de dire « Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » La Bible ne dit pas sans lesquels personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire ton cœur peut ne pas être en paix avec moi. Ce n'est pas encore très, très grave. Mais si tu ne mènes pas une vie de sanctification, tu ne peux pas voir le Seigneur. C'est-à-dire ici, c'est la deuxième partie sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. Voir le Seigneur, ce n'est pas seulement dans notre destinée finale au ciel, mais c'est le voir aussi dans ton partenariat. C'est le voir intervenir quand tu as besoin de lui. Si tu veux voir Dieu réagir lorsque tu l'appelles, je t'invite aujourd'hui à mener une vie de sanctification. Tu vas remarquer que peut-être tu fais beaucoup d'efforts pour très peu de résultats. Je vais seulement te poser une question. Comment tu évalues, comment tu fais l'état des lieux de ta vie de sanctification? Parce que aussitôt que tu vas commencer à mener la vie de la sanctification, le succès répondra à tes entreprises, mon ami. Alors aujourd'hui, je t'invite à revérifier. Ne t'époumonne pas encore pour si longtemps, pourtant tu as un secret. Le secret, c'est de commencer à mener une vie de sanctification. Parce que Dieu dit, sans elle, personne ne verra le Seigneur. Ne t'attends pas à Dieu dans tes affaires. Ne t'attends pas à Dieu dans tes problèmes. Ne t'attends pas à Dieu dans ta famille. Ne t'attends pas à l'intervention de Dieu si toi aussi, tu ne veux pas mener une vie de sanctification. On l'a beau appeler le Dieu parfait qui habite avec les imparfaits, mais il ne vient pas habiter avec nous pour se complaire dans notre saleté. Il vient habiter avec nous pour collaborer à améliorer notre situation. Alors je vais te poser, quel est l'état de ton cœur face à tout ce que le Seigneur a déjà doigté dans ta vie? On pense que c'est seulement les péchés. Il y a d'autres, le Seigneur veut juste que tu augmentes tes heures dans la prière. Ne pas le faire, c'est aussi biaiser ta vie de sanctification. Parce que s'il t'appelle à un autre niveau, c'est que tu as aussi un autre niveau de consécration où il veut t'amener. Pour d'autres, c'est juste une question d'obéissance par rapport à l'accoutrement. Pour d'autres, c'est juste une vie d'obéissance par rapport à telle ou telle autre chose. Maintenant, je vais te demander de rentrer en toi-même et de dire, Seigneur, je pense que de mon point de vue, donc dans ma situation, dans ma réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, tu vas réfléchir et de te dire de quoi il s'agit. Et donc, je vais conclure ce message en parlant à deux catégories de personnes, à part la première catégorie qui nous concernait tous, celle de faire la prière de sanctification au niveau de notre transcendance et au niveau de notre ascendance. D'entrer dans notre généalogie montante et d'entrer dans notre généalogie descendante pour pouvoir sanctifier tous ces milieux-là et vivre dans les repos. Mais une deuxième catégorie de personnes, qui ce n'est pas peut-être tout le monde, ce message était en train de s'adresser à quelqu'un qui est en train de lutter avec un péché dans sa vie. Et tu te dis, « Itui kitoka, moi et Dieu, tout qu'on va pirer, tout à quoi 10 sur 10 ?» Je ne sais pas pourquoi le mensonge revient, je ne contrôle même pas comment il revient. Je ne sais pas comment la jalousie monte dans mon cœur avec une telle facilité. Ok? Donc, c'est de dire, ce message s'adresse à cette catégorie de personnes pour te dire, ce n'est pas ça qui fait de toi moins un enfant de Dieu. C'est juste un combat spirituel que tu es appelé à livrer et à avoir une attitude. Et ton attitude n'est pas celle de la tête courbée. Dans la Bible, quand on aime nous dire, Inami Chevi, Chouakwa Koumba, Mambiam Sama. Mais le péché là, lui-même, il te rabaisse. Lui-même, il t'incline. Toi aussi, tu viens t'incliner devant. Pour faire quoi? Mais il faut prendre en compte de ta situation d'enfant de Dieu et de t'élever en prière et de dire, je sais que cette situation existe et que la culpabilité veut me montrer que je n'ai pas le mérite d'être enfant de Dieu. Mais je sais que je suis enfant de Dieu. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, et c'est Jésus. Malgré que tu es en train de voir aujourd'hui, tu échoues devant un péché, je vais dire à quelqu'un, hein, la victoire est là au bout. Recherche toujours ce qui est la volonté de Dieu. Recherche toujours à faire ce que la pensée de Dieu pour ta vie. Chaque matin, lève-toi avec une pensée de Dieu et cherche à l'accomplir. Malgré dans quoi est-ce que tu es en train d'échouer, je t'assure, un jour, ce péché sera très loin derrière toi. Et tu ne sauras même pas comment il est passé. Parce que Dieu regarde à la disposition de nos cœurs. Tu peux venir pleurer, Seigneur, je choue dans ces péchés, mais est-ce que ton cœur veut vraiment laisser? Tu aimes encore ces petits péchés-là, tu l'aimes, vraiment tu l'aimes. Mais est-ce que dans ton cœur, tu as la haine de ces péchés? Parce que Paul qui disait, pauvre pécheur qui me délivrera, le mal que je ne vais pas faire n'est pas celui que je fais. Il est arrivé à un moment de sa marche où il a commencé à dire, car toutes ces choses que je regardais pour moi comme un gain, ces péchés que j'aimais en réalité dans mon cœur, je suis maintenant arrivé à un niveau où je le regarde comme de la boue. Pourquoi? parce que j'ai excellé dans la connaissance de Christ. Moi, je te dis seulement, rapproche-toi de Dieu si tu es en train de lutter avec un péché en particulier dans ta vie. Et sa main va te secourir. La deuxième catégorie, c'est celle des personnes qui ont besoin vraiment des résultats. Ils sentent qu'ils sont à un moment où les choses qui montrent cette grande destinée à laquelle ils sont appelés doivent commencer à se mettre en place. Mais tu ne vois plus de résultats. Tu as besoin d'engagement, tu as besoin de grands contrats, tu as besoin, je ne sais pas moi, d'être reconnu, que tes grâces soient reconnues, je ne sais pas, à l'église ou ailleurs. Mais tu n'arrives pas à ce point-là. Je vais aussi t'inviter à te dire, rentre en toi-même et regarde ton niveau d'obéissance à Dieu. Parce qu'il veut coopérer avec toi pour réaliser cette destinée, mais tout dépend des décisions que tu prends au quotidien. Quel genre de décision tu prends chaque matin? Quel genre de décision tu prends pour entamer ta journée ou pour faire ta vie? Est-ce que tu as le temps d'être à l'écoute du Saint-Esprit ou tu fais ce que bon te semble? Parce que dans ces partenariats, Dieu demeure le roi. Dans ces partenariats, Dieu n'est pas ton égal en fait. Il demeure le chef et celui qui te donne les instructions. Quand tu obéis à Dieu, tu n'as pas l'opportunité de t'essuyer parce que tout ce qu'il fait est bon et juste. Alors j'appelle ces deux catégories des personnes si elles sont là. Je vais inviter les hommes de Dieu qui sont ici. Ok, bienvenue pasteur. Il va prier pour ces deux catégories de personnes, celles vraiment qui sont en train de faire face à des combats dans leur cœur et qui ont besoin de l'intervention de Dieu et qui ont besoin aussi de garder la tête haute. Parfois, ça arrive même sans que vous ne puissiez le contrôler. Tu vas simplement t'élever. Et si aussi tu as un niveau de ta destinée où tu as besoin de voir les déclenchements de certaines choses, mais tu remets en doute, tu remets en cause ton niveau d'obéissance à Dieu et ton niveau de vie de sanctification, tu vas aussi t'élever et le Seigneur va t'aider. Et on va clôturer par ce cantique. Si wezi mimi peke yangu kushinda mambo ya shetani la moto ndani yangu washa moto siwezi wezi mimi peke yangu kushinda mambo kushinda mambo ya she alakini ninaomba, lakini ninaomba mu. Tu vas t'élever de là où tu es et tu vas recevoir avec foi la prière que le pasteur va adresser.
Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants cet après-midi parce que tu nous appelles à la sanctification. Dis Seigneur Dieu que nous comptons sur toi. Nous avons des choses que nous avons tracées et nous voulons Seigneur que tu le réalises. Mais en même temps tu nous dis ta volonté c'est notre sanctification. Une manière de dire autrement, recherchez d'abord le royaume des cieux et toute autre chose vous sera ajoutée par-dessus. Seigneur nous sommes debout devant toi cet après-midi parce que nous reconnaissons que nous avons besoin de ta grâce. Je recommande entre tes mains ma sœur, mon frère, qui reconnaisse que la lutte est grande et sans toi, ils ne peuvent rien. Je prie, Seigneur Dieu, qu'au nom de Jésus, tu permettes que ce bien-aimé voie ta main les accompagner. Que tu ouvres leurs yeux devant les situations qu'ils sont en train d'affronter, afin qu'ils comprennent que tu es là et que dans ta fidélité, tu le soutiens. Je prie, éternel Dieu, que ta main de grâce accompagne chacune des décisions qu'ils prennent, afin que le diable ne trouve pas une piste par laquelle il puisse les amener à te désobéir.
Tu connais la réalité qu'ils sont en train d'affronter pour certains. Ils sont encore aux études et ils trouvent que là, ils ont besoin de ta grâce, Seigneur, interviens à leur faveur. Pour d'autres, ils sont tentés sur la voie de la recherche de l'emploi. Avec tout ce qu'ils affrontent, Seigneur Dieu, tentés à la corruption, tentés à ceci ou cela pour te déshonorer. Seigneur, nous prions que tes enfants soient soutenus par toi, afin qu'ils restent tête haute et qu'ils soient mesurés de témoigner de toi, quel que soit ce qui arrive. Réponds, Seigneur, à la requête de tout et chacun. Accorde à tes enfants de rester fidèles et attachés à toi. Accorde à tes enfants de vivre pour la gloire de ton nom, rien que pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu parce que tu vas continuer à affermir la foi de chacun. Tu vas continuer, Seigneur, à nous permettre d'avancer, quel que soit ce qui arrive, et de compter sur toi parce que tu es fidèle. Et pour ceux-là qui comptent sur toi, tu renouvelles leur force. Renouvelle la vie de ces bien-aimés, renouvelle la vie de tout le monde et permet que la gloire de ton nom soit manifeste dans toutes leurs actions et dans tout ce qu'ils sont en train d'entrevoir. C'est à travers le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous prions ainsi. Amen.